C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, l'escalier de la vérité nous emmène au pays des mille et une nuits. Vivons ensemble les splendeurs de l'Iran. Si au début le rôle de Farah était essentiellement de fabriquer un héritier au trône, une fois la tâche accomplie, l'impératrice dédia ses journées à une multitude d'occupations humanitaires dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture et des questions sociales incluant les droits des femmes. En 1966, elle reçoit un statut spécial lui permettant d'exercer la régence jusqu'à la majorité de son fils. Le 26 octobre 1967 se tient au palais du Golestan le couronnement du Shah, le jour même de son anniversaire. La veille, les habitants de Téhéran ont célébré l'événement à coups de klaxons, d'embouteillages de cadillacs charriant des villageoises en tchador, de pétarades et de radios assourdissantes. Et ce matin, alors que la ville récupère, 2500 invités se pressent dans des toilettes de couturiers dont la future souveraine a préconisé la discrétion et des teintes plutôt pastel, mais que ces dames ont fait rehausser par des broderies. Et il y a quelques couacs lorsque certaines découvrent que leur robe ou leur chapeau n'était pas une exclusivité. Et tous et toutes peuvent s'étonner des énormes émeraudes exhibées par les princesses Pahlavi. Depuis le palais du Niavaran et sur 17 km, 15 000 soldats forment une haie d'honneur aux carrosses d'ébène et de perles, un rêve des mille et une nuits blindées, roulant sur 1000 tapis persans avec les limousines de la suite. Depuis des avions sont largués 17 532 roses, un nombre correspondant au jour depuis la naissance de Mohamed Reza. Une fois assis sur le trône de Pan, le Shah, ceint d'une épée de rubis et revêtu du manteau impérial, prend la couronne que lui tendent des militaires et choisit de se couronner lui-même, ainsi que l'avait fait Napoléon. Revêtu d'une robe blanche immaculée, barrée de bleu et signée Dior, la Shahbanu se lève alors et avec l'aide de ses dames d'honneur, elle revêt une cape de velours vert foncé au motif persan en strass dont la traîne de 7 mètres nécessita que les brodeuses se servissent des longues tables du club des officiers. Puis elle s'agenouille devant son époux sur un coussin d'or et ce dernier la couronne à son tour, message très fort envoyé au monde que désormais les femmes en Iran seront égales des hommes. La couronne est une création de Van Cleef et Arpels dont le dessin fut sélectionné parmi une cinquantaine de proposants, mais il fallut travailler sur place en sélectionnant parmi les pierres précieuses du Trésor national entreposé à la Banque centrale les 1469 diamants, 36 rubis, 36 émeraudes, 105 perles et au centre une émeraude de 105 carats qui ensuite furent, après dessin, assemblés sur place dans la salle du Trésor servant d'atelier. Le joaillier se chargea également du collier d'émeraude de la reine, ainsi que des parures des sœurs et filles du Shah. Quand le sacre fut accompli, le cortège défila sur un podium fuchsia devant les invités au son des cornes et des tambourins, le petit prince coqueluche des badauds marchant au pas avec ses aides de camp avant de grimper dans le carrosse noir. Ce fameux jour, le Shah prononça le discours suivant. « Je remercie Dieu qui m'a donné la possibilité de rendre à mon peuple et à mon pays tous les services qu'il était en mon pouvoir de leur rendre », a déclaré l'empereur dans son allocution. « Je demande également à Dieu que dans l'avenir, je puisse continuer à servir mon peuple comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Le seul but de ma vie, c'est l'honneur et la gloire de mon peuple et de mon pays. Je n'ai qu'une seule espérance, garder l'indépendance et la souveraineté de l'Iran et faire progresser le peuple iranien. Pour atteindre ce but, je serai prêt, s'il le fallait, à offrir ma vie. En cet instant où je pose sur ma tête la couronne du plus ancien empire du monde et que pour la première fois dans l'histoire, la Shahbanu d'Iran a ceint elle aussi la couronne, je me sens de plus en plus près de mon noble peuple, si fier de ses traditions nationale et je souhaite que ce peuple soit toujours protégé par la bénédiction divine. Que Dieu Tout-Puissant, a conclu le Shah, me permette de donner aux prochaines générations un pays heureux, une société prospère et que mon fils, le prince héritier, demeure lui aussi sous la protection divine dans l'accomplissement de la tâche importante qu'il aura à porter sur ses épaules. Farah Pahlavi s'investit dans la supervision de complexes médicaux, de clubs sportifs, s'occupe de questions environnementales, du développement de l'artisanat local, préside des fondations et des entreprises d'État. Elle emploie 40 personnes dans son cabinet personnel. Les projets sont financés par deux fondations, celle du Shah et la sienne propre, et par la National Iranian Oil Company. Elle s'investit pour améliorer la vie des lépreux et empêcher l'expulsion de leur famille. 34 centres de diagnostic et de traitement du cancer sont ouverts. Un centre spécialisé est créé pour venir en aide aux victimes de brûlures. Un autre centre s'occupe de pédiatrie. La Fondation iranienne pour la santé mondiale collabore avec l'OMS. Des orphelinats sont construits pour accueillir 10 000 orphelins. Une école de formation d'éducatrice voit le jour. Se souvenant de sa propre jeunesse, Farah va accueillir des conférences internationales de scouts. Une école ouvre pour la formation professionnelle des aveugles. Une fédération de sport pour les sourds-muets voit le jour. L'orchestre philharmonique de Téhéran se produit avec des pointures comme Karajan et Menuhin. Des artistes étrangers reçoivent des bourses. Le festival de Shiraz est créé, qui va promouvoir la musique électronique. Des musées ouvrent. On restaure des immeubles historiques. On crée des parcs. Aux grandes dames des religieux, les femmes vont se voir accorder des droits au divorce. Un droit contractuel dans l'acte de mariage à une future pension alimentaire en cas de divorce. Ainsi que droit à la garde des enfants. L'interdiction de prendre une deuxième épouse, sauf accord de la première, et traitement égal pour les deux.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Je suis ruisseau, fleur, rivière, je suis le vent, la pluie, je suis l'ombre, la lumière, je suis la vie, je suis l'ouragan sur la dune, je suis une symphonie. Je suis un noyau de prune, je suis l'oubli.
L'un des grands moments du règne du chat fut la célébration du festival des arts de Shiraz Persépolis pour les 2500 ans de la monarchie iranienne et plus précisément l'anniversaire de la mort de Cyrus, le grand fondateur de l'Empire perse. Des célébrations avaient été envisagées en 1961 et un premier projet avait été dévoilé en août 60, supposant un budget de 3,5 millions de dollars, mais des changements de premier ministre puis un défaut de financement avaient remis à plus tard les festivités. Il fut même question d'abandonner l'idée et la suggestion de construire un village de tentes à Persépolis fut rejetée comme irréaliste. Puis le chat changea d'avis et le projet changea d'envergure car on fixa une date butoir, celle du 15 octobre 1971 et de plus, on prévit non seulement d'inviter des universitaires et des scientifiques, mais aussi des chefs d'État étrangers. Des invitations furent envoyées et on réalisa qu'on avait mis la charrue avant les bœufs. Persépolis était peuplée de scorpions et de serpents et le délai était beaucoup trop court pour une infrastructure hôtelière. L'idée du village de tentes fut remise sur la table et on s'orienta vers une réédition du camp du drap d'or version moderne, des préfabriqués de la maison Janssen étant recouverts de plastique donnant l'illusion de toile, le tout disséminé au pied des ruines de Persépolis sur 64 hectares, soit 4 fois et demi la place de la Concorde. Janssen, vieille maison hollandaise installée à Paris sur 17 000 m2, avait travaillé pour les plus grands, présidents comme tête couronnée, 200 compagnons et artisans d'art s'appliquant à satisfaire leurs exigences. 50 tentes furent installées pour les invités avec pour chacune une chambre pour monsieur, une autre pour madame, un living room, une cuisine, salle de bain, penderie, un appartement pour les domestiques. On y adjoint une tente club et une tente coiffure pour apprêter les chevelures de ces dames par les soins d'Alexandre et de Carita et leur offrir le maquillage Farah créé par Elisabeth Arden. Et on y ajouta la tente royale comportant un salon d'apparat, une salle à manger de 60 mètres de long, 13 mètres de large et 6 mètres de hauteur intérieure, autorisant la suspension de lustres en plexiglas imitant le cristal, les décorations de table étant en baccarat. La partie restauration fut confiée à Maxim's. Ce recours à des prestataires français ne manqua pas d'entraîner des dissensions chez les organisateurs quant à la pertinence d'occidentaliser ainsi une célébration persane. Profitant de l'impact d'un tel événement, il fut imaginé un programme de parrainage pour la construction d'écoles en fonction des besoins locaux, chacun pouvant contribuer par des dons financiers ou autres à ce projet, l'école se voyant attribuer le nom d'un donateur qui en aurait totalement financé la reconstruction. 2500 avaient été souhaités, il s'en construisit 3200 et les cours purent être dispensés immédiatement, assurés par les fameux enseignants de la Révolution blanche. Un nouveau calendrier fut conçu et entra en application en 1976. À Shiraz, des infrastructures sont construites ou améliorées, tandis qu'à l'ouest de Téhéran, le complexe Shayad est édifié avec une tour, une plateforme d'observation, un musée souterrain et une salle multimédia, complexe modifié en 1976. Le stade géant d'Ariamer, pouvant accueillir 100 000 spectateurs, est édifié avec l'ambition avortée d'une candidature pour les Jeux Olympiques de 1977. On débattit sur le coût exact de ces festivités, officiellement financées par des prélèvements sur les budgets des ministères concernés, ainsi que par des dons et des ventes de souvenirs. Par crainte de troubles et d'attentats dans l'esprit de l'opération de guérilla menée par les fédéines du peuple iranien le 8 février 1971, opération qui avait coûté la vie de 3 policiers, on procéda à l'arrestation préventive de 1500 personnes. 250 scientifiques se réunirent à Shiraz, tandis que les invités arrivaient à Persépolis pour y demeurer 3 jours. Le 12 octobre 1971, sur le site de Pazargadès, première capitale de l'Empire perse plantée à 1900 mètres d'altitude, le chat, son épouse, sa famille, des membres du gouvernement, des ambassadeurs et des religieux participent à une cérémonie retransmise sur les écrans, cérémonie au cours de laquelle l'empereur va s'adresser à Cyrus le Grand dans ce discours qui fut doublé par Orson Welles. Cyrus, grand roi, roi des rois, roi des Achéménides, roi de la terre d'Iran, moi, roi des rois d'Iran et mon peuple, nous te saluons. Au moment où l'Iran renoue ses liens avec l'histoire, nous témoignons ici la gratitude de tout un peuple envers toi, immortel héros de l'histoire, fondateur du plus vieil empire du monde, grand libérateur, digne fils de l'humanité. Après 2 millénaires et demi, le drapeau perse flotte à nouveau avec fierté, comme à l'époque de ta gloire. Aujourd'hui, comme alors, la Perse apporte le message de la liberté et de la philanthropie dans un monde tourmenté. Cyrus, grand roi, roi des rois, nous sommes rassemblés sur la tombe où tu reposes pour l'éternité afin de te dire « Dors en paix, car nous veillons et veillerons toujours sur ton héritage. » Suivirent 101 coups de canon. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous sommes de festivités à Persépolis et Shiraz. Ne boudons pas notre plaisir, car hélas, tout cela ne durera pas. Nous le verrons lors de notre prochaine rencontre.
Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Je vivais chaque seconde, et j'étais partout à la fois. Et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit. Comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour qui. Je vais et je viens, mal et bien sous mon toit. Quelque chose est moi, quelque chose est moi. Et je n'attends rien, ni des dieux ni des rois. Quelque chose est moi, quelque chose est moi. Comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi. J'ai reçu de bonnes nouvelles, il paraît que ça va bien la vie. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue, savoir si j'ai changé de tête, revoir ce que je ne suis plus. Oui, je sais que tu existeras. Il était un soir, il était une fois.